Utopod 024, 15 novembre 2008. Son nom est Personne de Pierre Bordage. Épisode spécial Jules Verne en partenariat avec la Maison d'ailleurs. Bonjour et bienvenue à tous. Pour commencer, une question aux auditeurs. Vous arrive-t-il encore de recevoir des épisodes incomplets? Le site d'Utopod vient de changer d'hébergeur et le problème devrait donc être résolu. Mais s'il devait se présenter à nouveau, s'il vous plaît, faites-moi signe à Lucas, L-U-C-A-S, @utopod.com. Un grand merci à la Maison d'ailleurs pour son soutien à Utopod et plus particulièrement pour le financement de l'épisode d'aujourd'hui. Merci notamment à Patrick Guiguerre et Jennifer Bochu pour leur collaboration et leur disponibilité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un texte inédit de Pierre Bordage, spécialement écrit pour Utopod, qui s'intitule « Son nom est personne ». C'est un récit légèrement uchronique qui fait la part belle à l'un des pères fondateurs de la science-fiction moderne, Jules Verne. Une façon de célébrer le superbe espace d'exposition et de recherche que la Maison d'ailleurs a consacré à ce monument de la littérature mondiale et qui a été inauguré le 4 octobre dernier à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Pierre Bordage est un des grands noms de la science-fiction francophone actuelle. Avec près de 100 romans et nouvelles publiées, une besace pleine des prix littéraires les plus prestigieux, des univers fictionnels aussi riches qu'envoûtants et des centaines de milliers de livres vendus, il a marqué les littératures de l'imaginaire d'une empreinte indélébile. Notre lectrice du jour est Charlotte Raymondin, comédienne fondatrice de la compagnie Cabaret, dont vous avez découvert le talent dans l'épisode 018. Et maintenant, mettez le cap sur Paimbœuf, réglez l'aiguille sur le 20 juillet 1839 et place à la littérature.
Son nom est Personne, de Pierre Bordage. Paimbœuf, le 20 juillet 1839. L'air du large me fouette les narines. Les grands navires à destination de l'Afrique, de l'Orient et du Nouveau Monde frottent leurs panses ventrues contre les pieux bordant les quais. Une activité fébrile agite le port, tandis que la Loire se dilate démesurément pour s'ajuster aux dimensions de l'Atlantique. L'air vibre de la tiédeur et de la lumière de ce matin de juillet. Des odeurs de sel et d'épices paraissent dans l'air alangui. Des hommes se démènent avec une adresse de singe dans les haubans des voiliers. Me frayant un chemin dans la foule des caporniers, des débardeurs, des passants et des mendiants, je cherche la Coralie, un trois-mâts en partance pour les Indes. D'immenses gaillards s'apostrophent dans leur langue rugueuse, des chasseurs de baleines, des harponneurs, exhibant leurs tatouages, leurs teints hâlés, leurs cicatrices, leurs hachures profondes et leurs dents noires. Mieux vaut éviter de les fixer dans les yeux. Ils sont prompts à considérer un regard comme une provocation et à jouer de leurs énormes poings. Je marche donc en me concentrant sur la pointe de mes chaussures. Je maudis le costumier qui m'a procuré des vêtements d'époque flambant neuf. J'entends dans mon dos les quolibets des marins qui, entre leurs lèvres gercées, se gaussent de ma tenue de gandin. Des anciens me traitent à mi-voix d'incroyable, et je me souviens que 40 petites années nous séparent du directoire. Les plus âgés de ces hommes ont probablement connu la Révolution et les années de soulagement et de fête qui suivirent la Terreur. Il faut que je pense à suggérer à l'agence de donner un aspect patiné aux tenues. Nous, les vérificateurs, ne devons à aucun moment attirer l'attention dans les époques que nous traversons. La Coralie. Enfin. Le magnifique trois-mâts à la proue effilée se balance mollement le long du dernier quai. Je suis soulagée d'arriver à temps. Les archivistes de l'agence ont consulté une multitude d'ouvrages des 19e et 20e siècles, mais n'ayant pas trouvé de date précise, ils ont recouru au calcul de probabilité. Le TT, transtemps, m'a transféré dans la ville de Nantes le 19 juillet 1839. Je me suis aussitôt rendu au port pour commencer mes recherches. Un employé m'a dit que la Coralie avait quitté Nantes 2 jours plus tôt, mais qu'elle devait faire une escale à Paimbœuf afin d'effectuer les derniers chargements. Fort aimable, il a ajouté qu'il ne fallait pas trop fréter les navires à Nantes, surtout l'été. Sinon, à cause des bancs de sable, ils ne parviennent pas à remonter la Loire jusqu'à son embouchure. J'observe la Coralie. Les débardeurs qui chargent les caisses de bois par la passerelle, les membres de l'équipage qui s'affairent sur le pont. Je cherche des yeux les mousses, mais ne distingue que des marins. Un officier d'une trentaine d'années, reconnaissable à son tricorne et au galon qui orne sa redingote bleu sombre, supervise les opérations. Je m'en approche. Il m'examine de la tête aux pieds avec une légère moue de réprobation. Les couleurs, sans doute, le costumier m'a soutenu que le jaune safran et le rouge vif étaient tendance en 1839. À la cour de Louis-Philippe peut-être, mais pas sur les quais du port de Paimbœuf. « Vous désirez, monsieur ? Vous êtes officier sur la Coralie ?» Je me suis appliqué à prendre l'accent de l'époque, que j'ai un peu étudié à l'aide d'un logiciel répétiteur. Mon vis-à-vis incline légèrement le torse. « Lieutenant de vaisseau Hyacinthe Motin, pour vous servir, monsieur. » « Eh bien, monsieur le lieutenant, je cherche un mousse qui se serait enrôlé dans votre équipage à Nantes il y a de cela quelques jours. » Il fait semblant de réfléchir, sans doute pour donner de la solennité à sa réponse avant de hocher la tête. « C'est que, monsieur, la presque totalité de l'équipage s'est engagée à Nantes. Que voulez-vous donc à ce mousse ? Seulement le saluer avant le départ. Vous êtes de la famille ? Un parent très éloigné. Quel est son nom ? S'il vous a donné le bon, il s'agit de Jules Verne. » Les yeux et le front plissés, le lieutenant s'abîme cette fois dans une vraie et longue réflexion. « Il y a bien un Jules parmi les mousses, mais son nom de famille est... Nemo. » Je ne peux m'empêcher de sourire. « Est-il âgé d'environ 11 ans ?» L'officier acquiesce d'un clignement de paupières martiales. « Alors c'est bien lui. » « Vous devez attendre un peu, monsieur. J'ai envoyé les mousses remettre... Enfin, faire une commission. » « Dans combien de temps reviendront-ils ? J'espère avant le milieu du jour. » Je m'incline à mon tour. Le soleil, émergeant des brumes matinales, n'est pas encore à son zénith. Les cris perçants des mouettes crèvent le brouhaha. À l'horizon, des voiles blanches et gonflées volent au-dessus des écumes scintillantes. J'ai environ 1 heure devant moi. Comme j'ai pris la première diligence de la journée pour parcourir les 40 kilomètres entre Nantes et Paimbœuf, je meurs de faim et de soif et me rends dans l'une des nombreuses tavernes qui bordent le port. Installé sur un tabouret devant une table de bois brut, je commande une anguille revenue dans une sauce au beurre et à l'ail posée sur son lit de parmentier. L'aubergiste au teint rougeau me sert d'autorité un vin rouge au goût aigre. L'anguille est divine. Les aliments de notre présent ont perdu leur sapidité à force d'avoir été manipulés. Les parmentiers n'ont rien à voir avec le goût fade de ce qu'on nous présente comme des pommes de terre. Celles-ci ont une saveur de noisette et d'humus. Je mange avec plaisir la tarte aux prunes que la main preste d'une servante dépose devant moi, puis je fais passer le tout avec un breuvage noir qui ressemble davantage à un jus de marc qu'à un café. 1 heure plus tard, je suis de nouveau posté devant la passerelle de la Coralie. Le lieutenant de vaisseau, les débardeurs et les membres de l'équipage se sont éclipsés pour sacrifier à leur tour au rituel du dîner. 2 garçons se présentent quelques instants plus tard. Âgés d'une douzaine d'années, ils portent tous les deux d'amples chemises de chanvre serrées aux épaules, des pantalons de toile et des chaussures qui peuvent se porter aussi bien à gauche qu'à droite. Je m'avance vers eux. Je devine lequel des deux est le jeune Verne au regard fou d'inquiétude qu'il me lance. « C'est toi, Jules ?» L'autre mousse, aux cheveux roux et au visage constellé de taches de son, me fixe d'un air effronté. « Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, monsieur ?»« Ce n'est pas à toi que je m'adresse. » J'observe Jules Verne, plutôt grand et maigre, cheveux bruns et ondulés, teint pâle, yeux noisettes que la peur n'empêche pas de pétiller. « Si vous insistez, monsieur, je m'en vais quérir des harponneurs que je connais bien !» gronde le mousse aux cheveux roux. Je veux seulement qu'il réponde à 1 question, et ensuite, promis, je m'en irai. « Bah, posez-la votre question !» Jules garde le silence. Il se tient en retrait, effrayé, comme retiré dans un autre monde. Tu t'appelles bien Jules Verne, n'est-ce pas? Il ne répond toujours pas.
Je crois bien qu'il n'a rien envie de vous dire, monsieur, grogne le mousse aux cheveux roux. Vous feriez mieux de partir.
Je m'accroupis devant Jules pour descendre mon visage à hauteur du sien. Est-ce que tu as bien l'intention d'offrir un collier de corail à ta cousine Caroline? La stupeur lui arrondit les lèvres. J'entrevois fugitivement l'homme qu'il deviendra un jour, tel que ses différents portraits nous l'ont fait connaître, avec sa barbe fournie et son air de savant austère démenti par la malice de ses yeux. Pourquoi as-tu choisi le nom de Nemo? Le mousse aux cheveux roux s'interpose entre lui et moi, l'air mauvais.
Vous aviez dit une seule question, monsieur, et vous en avez déjà posé trois. Fichez dans le camp si vous voulez pas que les caporniers vous flanquent la rousse de votre vie.
Je me relève, mes genoux craquent. Ils sont pourtant récents, je les ai fait changer l'année de mes 102 ans. Je m'en vais. Mais si tu souhaites me parler, Jules, je souperai ce soir à l'auberge de l'estuaire. L'après-midi s'étire avec une lenteur exaspérante dans la chaleur émolliante de juillet. Je déambule dans les rues de Paimbœuf, bordées de maisons cossues d'armateurs qui, pour la plupart, ont fait fortune avec le commerce triangulaire. Les navires chargés d'armes, de verreries, de porcelaine partaient d'ici pour l'Afrique et revenaient quelques mois plus tard du Nouveau Monde débordant de tissus et d'autres produits manufacturés. Entre-temps, ils avaient troqué leurs armes et leurs verreries contre des esclaves dans les comptoirs du golfe de Guinée et revendu leur cargaison de bois d'ébène dans les Caraïbes ou à Savannah, en Géorgie. De toutes les époques que j'ai visitées, le 19e n'a pas ma préférence. Il marque le début de la révolution industrielle, l'avènement de la vapeur, de la mécanique, de la rationalisation. Le premier train transportant des voyageurs a roulé 7 ans plus tôt, et personne n'en est mort, contrairement à certaines prédictions fantaisistes. Le 19e conduira au modernisme et à tous ses excès. Les guerres industrielles, la folie économique, le pillage effréné des ressources, la pollution, le réchauffement, la manipulation et la mutation génétique, la négation de l'individu, les cataclysmes. Au fond de moi, j'aimerais avoir la possibilité d'influencer le jeune Verne, de le détourner de cet optimisme béat qui l'entraînera à célébrer les vertus de la science. Comme si la science était la baguette magique des fées de nos contes. Je suis intriguée toutefois par le fait qu'il ait choisi le pseudonyme de Nemo pour s'engager sur la Coralie. Nemo, qui deviendra son personnage le plus sombre. Nemo, que la perte douloureuse des siens engagera dans une guerre sans fin contre l'humanité. Mais la déontologie m'interdit de modifier le cours de l'histoire. Nous, les vérificateurs, nous sommes des témoins neutres, des fantômes du futur. Il viendra sûrement au rendez-vous que je lui ai fixé à l'auberge de l'estuaire. Un curieux de son espèce ne pourra s'empêcher de découvrir comment un inconnu est à même de révéler les détails, en principe connus de lui seul, de ses amourettes avec sa cousine Caroline. Il se présente d'ailleurs 10 minutes après que je me suis attablée. La taverne bruisse des conversations et des rires des marins déjà échauffés par le vin. Les pipes exhalent une fumée âpre. Mon entrée a déclenché une salve de railleries et de ricanements. Le costumier de l'agence passera un sale quart d'heure à mon retour. Les filles de salle, nettement plus nombreuses qu'à midi, allument des lampes à huile suspendues aux poutres. L'électricité ne se répandra qu'au début du siècle suivant. Jules jette un coup d'œil inquiet autour de lui avant de s'avancer vers ma table. Je lui fais signe de s'asseoir en face de moi. Il a l'air d'un enfant égaré dans un monde un peu trop grand et rude pour lui. Je lui demande s'il désire souper. Il acquiesce d'un hochement de tête. Je passe la commande à la serveuse à la poitrine opulente qui se faufile avec adresse entre les tables et les mains des clients. Pas le choix de toute façon. Le soir, c'est le même menu pour tout le monde. Soupe de poisson, ragoût de bœuf et tranche de brioche. Je laisse un moment le jeune Jules mariner dans la curiosité qui lui dévore les yeux. Je verse du vin dans son verre. Il emboîte une gorgée qui lui tire une grimace. Eh bien, est-ce que tu as retrouvé ta langue, Jules ? Il lance un nouveau regard par-dessus son épaule avant de me répondre. Qui êtes-vous, monsieur ? Peu importe. C'est moi qui pose les questions. Il boit une deuxième gorgée de vin. Ses mains sont bien trop délicates pour un mousse. Ses joues et son regard s'enflamment. Vous avez deviné. Je suis bien Jules Verne, le fils aîné de Pierre et Sophie Verne. Tu t'es enfui de chez toi après avoir acheté l'engagement d'un mousse, n'est-ce pas ? Il reste quelques instants figé par la stupeur. Comment le savez-vous, monsieur ? Rien de plus simple. Il m'aurait suffi d'interroger le mousse en question, non ? Le raisonnement a l'air de lui convenir, puis il secoue la tête à plusieurs reprises. Oui, mais pour le collier de corail et pour ma cousine Caroline ? Ah, ça, mon jeune ami, ne compte pas sur moi pour dévoiler tous mes mystères. Il vide son verre avant de me scruter avec une grande attention. Pourquoi portez-vous des vêtements aussi ridicules, extravagants ? Vous venez des Indes ou d'un autre pays oriental ? De plus loin que ça encore. Il reste une question à laquelle tu ne m'as pas donné de réponse. Le pseudonyme de Nemo ? La poitrine généreuse de la serveuse s'immisce entre nous. Elle pose sur la table les assiettes creuses et fumantes d'où monte une odeur de poisson, ainsi que deux cuillères et une corbeille emplie de morceaux d'un pain presque noir. Jules goûte la soupe avec d'infinies précautions. Ses manières sont celles d'un bourgeois. Il a l'air aussi taillé pour l'aventure qu'une demoiselle de cour. « Pourquoi Nemo ? » reprend-il en s'essuyant délicatement les lèvres avec le mouchoir brodé qu'il a tiré de la poche de sa chemise de chanvre. « J'ai lu l'Odyssée, et c'est la réponse que donne Ulysse au cyclope Polyphème pour s'enfuir de sa caverne. Comme « personne », en latin, se traduit par « Nemo », c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit lorsque le recruteur m'a demandé comment je m'appelais. Tu n'en as pas informé tes parents, n'est-ce pas ? Je tente d'adoucir le goût âpre de la soupe avec une bouchée de pain et une gorgée de vin. Vous ne me posez pas de questions, monsieur, dit Jules, l'air pensif. Vous me lancez des affirmations. Et j'aimerais savoir d'où vous viennent vos certitudes. Je n'ai pas toujours des certitudes. Tu parlais de l'Odyssée. Eh bien, mon travail consiste à vérifier que les légendes ou les rumeurs correspondent à la réalité. Je suis un historien d'un genre particulier. Quel rapport entre l'histoire et moi ? Nous appartenons tous à une période historique, mon jeune ami. Peut-être que tu auras une grande influence sur ton temps, comme les Robinson du roman de Vice ont eu de l'influence sur toi. Nous vidons nos assiettes de soupe en silence. De temps à autre, tandis qu'il porte la cuillère à sa bouche avec une lenteur affectée, il lève sur moi un regard perplexe. Ce n'est pas la première fois que je suis confrontée à un être dont je connais l'histoire avant qu'elle ne soit écrite. J'en éprouve parfois de la jubilation et parfois de la tristesse, comme ce fut le cas devant Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, qui finira sur le bûcher 2 ans après notre entrevue. J'appris à cette occasion qu'il avait abondamment puisé dans le trésor de son ordre pour contrarier les manœuvres de Philippe le Bel et qu'il ne restait pas grand-chose d'un magot que la légende prétendait inépuisable. « J'aimerais quand même savoir qui vous êtes, monsieur, » reprend le jeune Jules d'une voix plus ferme. Le vin lui redonne un peu de cette hardiesse qui l'a poussé à s'enfuir de chez lui et à s'engager sur la Coralie. « Mon nom est personne, » dis-je avec un petit rire. Ma réponse l'agace, le dégrise. « Vous vous moquez de moi, monsieur. Vous êtes un détective engagé par mon père, n'est-ce pas ?»«
Je suis bien une sorte de détective, mais je n'ai pas été engagé par ton père. Je resterai pour toi un mystère. »
Ton départ a dû mettre la maison familiale sans dessus-dessous. Peut-être devrais-tu rentrer pour rassurer tes parents. Je ne te sens pas fait pour la vie d'un marin au long cours.
Que dirais-je à ma mère?
Que tu ne voyageras plus qu'en rêve, peut-être. C'est le genre de phrase qui rassure les mères.
La servante nous apporte deux assiettes de ragoût de bœuf aux choux, aux navets et aux carottes, dont le fumet me réjouit les narines.
Pourriez-vous me ramener à Nantes, monsieur?
Cette nuit, si tu veux. Une diligence part à minuit. Demain matin, tu devrais être chez toi. Il plonge avec entrain sa cuillère dans le ragoût, rasserre le nez, oubliant enfin les bonnes manières.
Une dernière chose, Jules. Quelle commission le lieutenant de vaisseau vous a-t-il confiée, à l'autre mousse et à toi ?
Je le vois rougir malgré la lumière vacillante des lampes.
Il nous a demandé de porter un mot à... Enfin, une galante, une femme blonde qui sent le parfum et parle avec un drôle d'accent, russe peut-être.
Elle ne s'appellerait pas Nadia, par hasard ?
Son étonnement se manifeste cette fois par un léger haussement des sourcils.
Comment le savez-vous ?
Je ne lui dis pas qu'avant d'être transféré, j'ai lu tous les livres qu'il n'a pas encore écrits.
Nous sortons de la taverne rassasiés, presque euphoriques. « Eh, vous deux ! »
Le mousse aux cheveux roux surgit de l'obscurité et fond sur nous avec la vivacité d'un oiseau de proie. Deux hommes l'accompagnent, de géants aux faces rugueuses, aux larges épaules, vêtus de chemises et de pantalons coupés dans le tissu avec lequel on fabrique les voiles.
« Ça va, Jules ? Il t'embête pas, ce gandin ?»
Jules écarte les bras en signe de conciliation. « Tout va bien, Passepartout.
Vous filiez où, comme ça ?»«
Nous comptions prendre la diligence pour Nantes. »«
Tu ne veux donc plus voguer sur la Coralie, Jules ? Tu ne veux plus aller aux Indes ?»
Le jeune Verne baisse la tête. « Je crois que je ne suis pas fait pour la vie de marin. »
Le mousse aux cheveux roux me désigne d'un coup de menton. « C'est pas lui qui t'aurait mis cette idée dans la caboche ?»
Jules relève la tête. « Non, Passepartout, c'est moi, et moi seul, qui ai pris la décision. »«
Le capitaine, il sera pas content. »«
Il trouvera bien quelqu'un d'autre. Il y a plein de garçons qui errent dans le port à la recherche d'un engagement. » Tu pourras lui expliquer ?
Les yeux de Passepartout s'emplissent de mélancolie.
Dommage que tu te débines, Jules. Je croyais enfin avoir trouvé un véritable ami.
Je te retrouverai un jour, Passepartout, et nous ferons un long voyage ensemble.
T'es gentil, Jules, mais tout ça, c'est que des mots.
Les deux garçons restent immobiles et silencieux jusqu'à ce que l'un des géants intervienne.
Qu'est-ce qu'on fait, nous autres ?
Son accent rocailleux trahit ses origines canadiennes.
Vous pouvez vous en retourner, Ned. Tu veux donc plus combattre ce Godeluro, mon gars ? Crois-moi, ce sera plus facile que d'arponner une baleine.
Non, Ned, il n'y en a plus besoin.
Merci quand même à vous deux, je vous offre à boire à la taverne.
Misère, mon gars, t'as même pas de quoi te payer un faillir à vaudage pour ta culotte. C'est nous qu'allons te payer le verre.
Les gaillards s'engouffrent dans la taverne. La bagarre, ils la chercheront plus tard et n'auront sans doute aucun mal à trouver des amateurs.
« Désolé, Passepartout, »
murmure Jules.
Le mousse aux cheveux roux s'approche de lui et lui donne une petite tape sur l'épaule.
« J'imagine que c'est mieux de même.
Bonne vie, Jules. T'inquiète donc pas pour le capitaine, je m'en charge. »
La diligence fonce dans la nuit dans un concert de crépitements et de grincements.
Ballotté par les cahots, Jules a le plus grand mal à garder les yeux ouverts.
Je lui ai demandé comment il comptait justifier ses quelques jours d'absence auprès de ses parents. Il leur dirait, m'a-t-il répondu, qu'il avait flâné dans le port, visiter les bateaux et qu'il s'était endormi dans l'un d'eux. Pourquoi appelle-t-on ce mousse passe-partout ? Il rouvre ses yeux déjà gonflés de sommeil. Sa tête se balance doucement sur le dossier de la banquette en cuir craquelé. Nous sommes seuls dans la diligence. À cette heure, nous a confié le cocher, il n'y a pas beaucoup de voyageurs.
Parce qu'il passe partout et qu'il est malin comme un singe, répond Jules en réprimant un bâillement.
Il glisse dans un profond sommeil à la fin de sa phrase. Le temps est venu de m'effacer. Je frappe deux coups sur la cloison de la diligence. Le cocher ouvre la petite trappe. Son visage secoué se découpe par l'ouverture.
« Monsieur ? Arrêtez-moi là. Et le gosse ? Réveillez-le à Nantes, il saura rentrer chez lui. Mais, monsieur ! »
Les quelques pièces que je lui tends le convainquent mieux que les mots. La voiture s'arrête au bout de quelques secondes. Je m'assure que Jules ne s'est pas réveillé et descends par le marchepied. La nuit m'enveloppe de son haleine chaude. Après que le silence a absorbé le grondement de la diligence, je marche en longeant la Loire. L'enfant vert ne m'a bien plu. J'ai pu vérifier le point obscur de sa vie qui posait un problème aux éminents biographes de l'écrivain. Ils ont offert une somme rondelette à l'agence de contrôle du passé pour qu'elle envoie un vérificateur. La fugue de Jules n'était donc pas une légende. Je passerai sous silence mon rôle dans la résolution de sa brève aventure. Je crois que je n'ai eu aucune influence sur le passé, qu'il aurait pris de toute façon cette décision de ne plus voyager que par la pensée. Il me faut maintenant retrouver la porte temporelle et retourner dans mon présent, ni plus ni moins réjouissant que les autres époques, seulement différent et obsédé par la vérité historique. Il n'y a pas d'époque supérieure à d'autres. Tel est le principal enseignement des voyages dans le temps. Jules Verne ne saura jamais que, pour lui rendre visite, j'aurai utilisé un principe cher à l'un de ses grands confrères, H.G. Wells.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de continuer à parler d'Utopod autour de vous et à encourager les gens à s'abonner gratuitement. Je ne le répéterai jamais assez, le nombre d'abonnés est absolument décisif dans l'obtention de fonds destinés à rémunérer auteurs et lecteurs. Et puis vous pouvez aussi faire un petit geste en allant sur www.utopod.com et en cliquant sur l'icône « Faites un don » que vous trouverez en bas de chaque page. Pas besoin de faire des folies, une poignée d'euros, c'est déjà pas mal. Je passe maintenant à la lecture d'un mail reçu dernièrement. William écrit « Bonjour, dans plusieurs de vos émissions, vous insistez sur le fait de s'inscrire via iTunes plutôt que via le fil RSS. Vous ajoutez que l'inscription via iTunes est plus valorisante pour vous. Je ne vois pas pourquoi les statistiques d'un fil RSS ne peuvent pas entrer en compte, alors que contrairement à iTunes, le fil RSS est un format libre et accessible depuis de nombreux logiciels. Vive le RSS ! Sinon, continuez comme ça. » Merci pour votre message, William. En fait, je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre la question. À vrai dire, il n'y a aucune contradiction entre l'utilisation d'un flux RSS et l'utilisation d'iTunes, et ceci pour une simple bonne raison. L'abonnement à un podcast passe obligatoirement par un flux RSS. Qu'on utilise iTunes ou n'importe quel autre agrégateur, dans les faits, ce qu'accomplit votre ordinateur, c'est d'aller solliciter le flux du podcast qui vous intéresse, un peu comme une fréquence de radio mais en version numérique, et de lui poser la question suivante. Bonjour, est-ce qu'il y a eu un nouvel épisode dernièrement ? Et si oui, pourriez-vous le télécharger automatiquement sur mon ordinateur ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, que vous utilisiez iTunes ou n'importe quel autre logiciel, le résultat est le même, et j'encourage chacun à utiliser l'agrégateur qui lui convient le mieux. Ce sur quoi j'insiste, en revanche, c'est la notion d'abonnement. Si vous écoutez les émissions de façon ponctuelle, en streaming, depuis le site, il y a plusieurs inconvénients. Tout d'abord, personne ne vous avertit quand il y a un nouvel épisode, et vous risquez donc d'en rater, et moi, de perdre des écoutes. Deuxièmement, il se peut que votre connexion Internet soit mauvaise ou que le serveur d'Utopod soit surchargé à ce moment-là et du coup la lecture du fichier MP3 risque d'être hachée ou mauvaise. Troisièmement, dans les statistiques, vous ne serez pas compté comme abonné mais comme auditeur ponctuel, ce qui a moins de poids face à un sponsor qui s'intéresse avant tout au succès de l'émission à long terme. Et il y a un avantage à être abonné. Non seulement vous ne ratez aucun épisode, mais en plus vous le recevez directement sur votre ordinateur sans rien avoir besoin de faire, et en outre vous recevez les épisodes hors série que je n'annonce jamais sur les forums ou les listes. Voilà, William, j'espère avoir compris votre question et y avoir répondu de manière satisfaisante. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe sur lucas@utopod.com et on pourra en discuter ensemble. Quoi qu'il en soit, merci pour votre message et à très bientôt sur les ondes, ou sur les flux plutôt. Voilà pour aujourd'hui, chers auditeurs. Écrivez-moi à lucas@utopod.com pour me faire part de vos remarques, critiques ou souhaits. Rendez-vous le 13 décembre prochain pour un texte inédit de Brian Stableford. Bye bye!